Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce midi, l'équipe de Bras Zéro se lance dans une incroyable expérience. Des news, de l'action, des chansons, de la météo, du jour à la nuit. Bref, tout pour essuyer l'ennui. Pour cela, notre équipe de choc est partie à travers le monde et le temps. En plein tôt, ce midi, avec moi, je serai accompagnée de Marie-Pierre Lanac. Bonjour Marie-Pierre.
Bonsoir, bonjour.
Ah, c'est pas grave, ça arrive. Connue pour avoir réalisé des trucs de malade.
Et avec moi, l'unique, la seule, la formidable Josiane Groschana.
Ah, merci.
Connue pour d'autres trucs de dingue. Et donc, on enchaîne directement avec nos reporters en Argentine.
Bras Zéro, l'émission qu'on n'a pas appris à écouter.
Pendant ce temps-là, il est midi le long de la frontière argentino-paraguayenne. On roule pour traverser la province de Misiones. On a été pris en stop par un chauffeur-livreur qui nous explique les étendues immenses de sapins alignés qu'on traverse. Ces pins ont remplacé toutes les autres espèces d'arbres qu'il y avait ici avant. Les ouvriers qui sont embauchés par une multinationale chilienne coupent, tranchent, broient et transportent cette matière première dans des camions ultra chargés. Ensuite, ils en font de la pâte de cellulose, de l'aggloméré, des meubles bon marché, etc. La terre est rouge ocre, l'air est poussiéreux, la route est droite. De part et d'autre, il y a des maisonnettes, isolées ou en hameaux, qui sont celles des Indiens Guarani qui se retrouvent à habiter le long de cette quasi-autoroute. Le camionero qui nous emmène l'a parcouru dans l'autre sens ce matin même, en partant de chez lui à 5h du mat pour faire ses 700 km quotidiens. Quand on parle avec lui de la réforme de la loi sur le travail, la reforma laboral, que le gouvernement est en train de mener, il nous explique qu'il fait partie du syndicat des camioneros, qui est le syndicat le plus puissant du pays. Et son dirigeant, qui est multimillionnaire, c'est aussi le propriétaire d'une grosse entreprise de transport routier, et il a été député. D'ailleurs, le type nous explique que pour être embauché, il a été obligé d'adhérer à ce syndicat. Allez, bonne route camarade. Suerte.
Bonjour, aujourd'hui je reçois Max-André Paul, qui est nageur olympique syndicaliste et qui a une revendication à exprimer.
Ouais, y en a marre des cadences infernales. 100 mètres nage libre d'un coup, c'est trop. Les camarades et moi, on exige une pause café à 50 mètres.
Et qu'en disent vos dirigeants?
Ils invoquent d'obscures raisons de baisse de résultats.
Un classique. Et si vous n'êtes pas entendu?
On boycotte la nage libre et on fait une nage imposée.
Bravo.
Alors, on vient d'entendre les syndicalistes nageurs en colère. On les soutient fortement.
D'ailleurs, le pot commun pour soutenir leur lutte se situe à la piscine Léo Lagrange. N'hésitez pas à y passer. Et vous, Josiane, le midi, vous faites quoi?
Eh ben moi, ma chère Marie-Pierre, je présente l'émission Un jour, un midi. Allez, on s'en écoute un extrait. Richard, t'envoies.
Moi, mon midi de fonctionnaire. Je vais manger vers 13h, mais je vais manger un petit peu plus tôt parce que, en fait, je mange tout seul et du coup, je ne vais pas tomber avec mon collègue de bureau que je n'aime pas, qui mange tout seul aussi. Du coup, je fouine pour manger là. Je mange avec mon bouquin, mon journal. Quand il fait beau, je vais manger le bord de l'Erdre ou le long de l'île de Versailles. Et quand il pleut, je bouffe à la cantine tout seul, mais je suis plus calé à manger dehors pour faire un break dans la journée. Puis le problème à la cantine, c'est que c'est un restaurant administratif, du coup il y a tous les keufs qui viennent manger. Notamment les keufs qu'on voit en manif en uniforme avec leur arme et tout ça, et du coup c'est pas cool. Des fois ils se mettent à côté de toi, tu les entends parler, ça te gâche ton repas. Et voilà, je fais mon petit break tout seul, j'ai pas envie de bouffer avec les collègues à parler boulot, tatati tatata quoi.
Mmh. Et donc tu lis quoi en mangeant?
Bah mes bouquins de la semaine, ou le mercredi le cadeau enchaîné. Ou...
Et toi t'achètes pas tes
lits? Non, Maria, je mange proprement.
Le midi au boulot, c'est très simple. On désigne quelqu'un volontaire pour
aller faire à manger pour les autres.
Désigne quelqu'un volontaire.
Un volontaire se désigne.
Voilà.
Pour faire la bouffe pour les autres. Quand c'est prêt, il sonne la cloche et tout le monde réplique. Et évidemment, on mange les légumes du jardin.
C'est végétarien ?
C'est souvent vegan, si tu veux tout savoir.
Tu manges vegan, Léo ?
Parce que du coup, l'adore.
C'est quoi votre métier ?
Ah, on est maraîcher. Voilà, on mange surtout des légumes à minuit. Bah, par contre, le maraîcher, c'est vrai que on mange toujours les légumes moins beaux, quoi. Parce que tout ce qu'on ne peut pas donner aux clients, on le mange. On a failli amener une courge pourrie. Du coup, j'ai eu un peu honte. J'ai dit à Léo de ne pas l'amener.
À la cantine de la fac, il y a beaucoup de choucroute et moi j'aime pas ça. Donc c'est un peu embêtant. Surtout que les saucisses, elles sont en plastique. Puis j'aime pas cuisiner. Donc du coup, c'est un peu compliqué. C'est très dur pour moi psychologiquement. J'ai vraiment beaucoup de mal à vivre mes midis, en règle générale.
Ben, souvent, je prends des Tupperware. C'est moi qui cuisine la veille. Et je les mange assez rapidement, des fois. Et sinon, je vais m'acheter un truc vite fait à manger. Mais j'essaie quand même d'acheter des trucs un peu bons. Mais bon, ça coûte cher. Et j'aime bien le midi. J'aime bien prolonger mon midi pour retarder le moment où je travaille. Enfin, j'aime bien faire mon midi tard. Comme ça, après, il est plus tard et je traîne. Et après, il est tard et j'ai bientôt fini de travailler. comme ça je finis vite de travailler. En fait, dans l'idéal, il faudrait pas travailler pour tout le temps manger. Bah, ou alors, pas travailler, mais faire des choses et manger. Et on ne travaillerait pas.
Bah moi ça dépend quel midi, parce qu'il y a des midis où je me lève tard, donc je petit déjeune. Il y a des midis où je suis un lendemain de cuite, donc je suis vaseuse, je mange pas. Et il y a des midis où j'ai mes journées de travail, donc du coup bah je dois manger le midi sur ma pause. Et ça c'est bien quand je me fais à manger la veille, parce que comme ça je fais mon repas. Mais là, mon premier mois, c'était chiant parce que du coup, à la fois, j'avais pas d'argent pour pouvoir faire des courses, pour me faire des bons trucs à manger. Et à la fois, j'avais pas de temps pour cuisiner aussi. Ce qui fait qu'en fait, j'ai mangé, paradoxalement, des salades toutes faites trop dégueu, hyper chères, tous les jours. Du coup, c'était hyper chiant. Mais à partir du mois prochain, ça ira mieux. J'aimerais bien avoir un Tupperware en verre parce que ça conserve mieux.
Mais il n'y a pas de cantine là où tu travailles ?
Non, en fait, il y a y a beaucoup de gaspillage. On pourrait consommer les restes de ce que mangent les enfants à la crèche. Mais sachant qu'il y a quelques années, il y a eu des conflits en équipe à propos de qui mange les restes, en fait, et de à partir de les premières qui allaient en pause, en fait, du coup, manger tout et donc laisser rien pour celles d'après. Bah, il a été convenu du coup que plus rien n'était gardé. Donc c'est un peu terrible parce que tout est jeté. Et même d'une vision aussi pédagogique, tout est jeté même devant les enfants en fait. Donc on est dans un truc où, dans une société où on dit toujours en fait de faire attention à comment on consomme. Tout ça, et sachant qu'à la crèche, en crèche municipale, en fait, on jette tous les restes dans des bassines devant les enfants et que nous-mêmes, en fait, on ne peut pas le manger derrière. Donc c'est un peu terrible.
Midi, c'est ravioli.
Je travaille jusqu'à 1h. Ça, c'est 13h. Et après, je vais manger le déjeuner. Parfois, toute seule, j'apporte le déjeuner au travail. Sinon, je mange avec mon chef. La semaine, je travaille. Et sinon, je prépare la nourriture chez moi, surtout les dimanches avec ma sœur. On mange du poisson tout le temps.
Et t'aimes bien tes temps de midi ?
Bah oui, surtout à la maison. Parce que je peux reposer, bien manger aussi. Et mon travail, ça fait que le quotidien, je sais pas, le travail quoi.
Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché, Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu.
Et pendant ce temps-là, il est midi à Cordoba, au nord de l'Argentine. Et on bloque un pont avec le FOL, le Front d'Organisation et de Lutte. Le gouvernement actuel, composé de CEO, c'est-à-dire des PDG qui se sont lancés dans la politique pour pouvoir encore mieux faire des affaires, on n'est jamais mieux que servi que par soi-même, cherche à faire passer une réforme bien rétrograde. Moins d'impôts pour les multinationales, moins de revenus pour les travailleurs et les retraités, moins d'aide sociale. Donc on danse pas en rond sur le pont, mais on chante haut et fort que les policiers sont des lâches payés par le patron et le gouvernement. On crie que le socialisme n'est pas mort et qu'on lâchera rien. Il y a beaucoup de femmes, fortes en gueule et bien énervées. Et on se moque des robocops qui transpirent sous leurs uniformes. Puis d'autres groupes nous rejoignent et nous voilà tous partis pour prendre d'assaut la casa du gouverneur. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas l'envie qui manquait. Elle manquait peut-être au syndicat bureaucrate.
Pour vous dire que vous avez le droit de ne pas aller en cours, comme votre professeur a le droit de ne pas faire cours. Sentez-vous concerné? Aujourd'hui est en train de passer un texte qui va faire que vos études vont coûter cher et que vous ne pourrez pas aller en master parce que vous n'aurez pas eu le bon parcours. Alors je ne sais pas si vous vous sentez concerné, si vous le sentez, rejoignez-nous. Vous avez le droit, vous ne serez pas pénalisé pour ça et pour vous c'est pareil madame.
Eh bien, dites donc, Josiane, les syndicalistes et les gens sont vraiment en colère ce midi, hein. De Cordoba jusqu'à le Mirail.
Non, je crois qu'on dit le Mirail, en fait.
Oui, enfin bon. Ah, mais on me fait signe en régie. Breaking news, apparemment nous avons un flash en direct avec un invité de marque.
Bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau de KFM TV et nous recevons aujourd'hui, dans un cas d'extrême urgence, le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement français, Jean-Michel Latruite, pour parler de la situation au lycée Gallieni de Toulouse, un lycée en état de guerre.
Alors écoutez, merci de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateau. Voilà, un lycée, comme vous l'avez dit, qui est en état de guerre, avec une situation extrêmement compliquée. Un lycée qui, avec le temps, j'ai envie de dire, et je ne mâche pas mes mots, un comportement laxatif, du proviseur en charge de ce lycée à cette époque, donc aujourd'hui. Nous avons, comme je le disais au corps enseignant, je vais faire ce qu'il faut faire et dire ce qu'il faut dire, je le dis, il faut mettre à la tête de ce lycée un militaire.
Monsieur le ministre, j'aimerais savoir, et je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices, s'il y en a, aimerait savoir s'il y a un lien entre la forte corrélation entre l'origine ethnique des élèves et leur religion qui va avec, n'est-ce pas, pour ne pas la nommer, et les débordements qu'il y a dans ce lycée.
Alors oui, alors tout à fait, cette question est une question particulièrement sensible. Nous ne pouvons aujourd'hui pas nier la corrélation directe qu'il y a entre la provenance ou l'origine des personnes ayant causé ce mal et cette situation, cet état de guerre dans ce lycée. Moi aujourd'hui la question que je me pose c'est, je vous la pose aussi, je la pose à tous nos téléspectateurs, pourquoi, j'ai envie de dire, c'est pas parce que ces élèves ont été mis dans ce lycée contre leur gré qu'ils doivent réagir de la sorte. Dire, voilà, ils ont été orientés très jeunes dans ce genre de lycée professionnel, à majorité masculine. Ils l'ont cherché, j'ai envie de dire, ils l'ont cherché et on ne peut pas l'éviter et la seule solution est de mettre aux commandes et à la tête de ces institutions quelqu'un de compétent qui va pouvoir resserrer la ceinture et va pouvoir écraser cette minorité, ceux qui, voilà, c'est peut-être 10 individus sur la centaine qu'il y a, 10 individus qui foutent la merde et qu'il faut absolument recadrer. Je voudrais ajouter à ceci un point qui est particulièrement important. Alors, j'ai envie de dire, on ne peut pas dire que le système aujourd'hui est en faute. Ce n'est pas un problème de structure. Ces élèves qui sont, on va dire, dans l'ensemble, les chiffres, je ne les ai plus, mais quelque chose comme 900 élèves, voilà, 900 élèves avec 120 enseignants, je veux dire, largement suffisants pour encadrer ces individus. Des classes de 30 personnes, d'accord, mais bon, on le voit partout, ça n'a jamais posé de problème. Pourquoi ça devrait poser de problème aujourd'hui?
Et vous me disiez hors antenne, justement, que vous envisagiez d'envoyer des, en plus de ce militaire à la tête de l'établissement, des camions de CRS au sein de l'enceinte de l'établissement.
Oui, tout à fait. Donc là, on est dans un état de crise, comme on dit, un état de guerre, et il n'y a d'autre solution que la répression et que la sécurité, remettre de l'ordre et mater, si j'ai envie de dire, sans mâcher mes mots, les personnes qui ont trop longtemps été libres de leur mouvement et nous ont montré que cette liberté, ils l'usaient, mais à mauvais escient, et pouvait être réellement dangereux pour le corps enseignant qui aujourd'hui pâtit, souffre de cette liberté.
Merci Monsieur le Ministre, vous ne mâchez vraiment pas vos mots. Maintenant j'ai une question, quel message voulez-vous adresser aux filles de cet établissement que l'on a vu donc raser les murs?
Alors oui, tout à fait. Donc ces filles qui sont en minorité dans ce lycée et qui subissent au quotidien des insultes, voilà, une situation qui pour elles est particulièrement difficile. Essayer de mettre en place, et c'est ce que j'expliquais au corps enseignant, mettre en place un système qui permettra à ces filles de raser le mur, mais en toute tranquillité, car raser les murs est un droit aujourd'hui en France. Personne n'a le droit de critiquer la manière dont on rase ou ne rase pas les murs. Celles qui ont choisi de les raser, ils peuvent les raser. Ceux qui n'ont pas envie de se raser, ne se rasent pas.
Très bien, merci Monsieur le ministre.
Comme je disais au corps enseignant, je vais faire ce qu'il faut faire et dire ce qu'il faut dire, et je le dis, je le ferai.
Tu préfères Brasero ou France Inter?
Brasero.
Moi aussi.
Pendant ce temps-là, il est midi dans la province du Chaco, en Argentine, et on est dans les rues de Resistencia, la capitale nationale des sculptures.
C'est quoi? C'est une coupe?
Entre les poubelles de tri et les sculptures en plein air, au détour d'un coin de rue, on tombe sur une quarantaine de personnes qui coupent la route à la circulation. Elles déploient une énorme banderole sur laquelle est inscrit Tupac Amaru, du nom du dernier empereur Inca. Alors bon, on se demande ce que fait Tupac Amaru dans une manif à Resistencia, et puis il nous explique que la Tupac Amaru, c'est une organisation sociale et politique qui est née à la fin des années 90 dans la province de Jujuy, dans le nord du pays. C'est une organisation qui est issue des mouvements de chômeurs et chômeuses qui se battaient contre les réformes ultralibérales du FMI dans les années 90, là c'était la mode, et qui se sont réunis en assemblée de quartier à ce moment-là pour s'organiser face à la précarité généralisée que leur imposait le gouvernement et la finance internationale, notamment en construisant des logements, des écoles, des centres de santé pour les classes populaires qui se retrouvaient à la rue. Ils ont fait tout ça en autogestion avec les premiers et premières concernées, à savoir les indigènes et les femmes. Et du coup, 20 ans plus tard, aujourd'hui, la Tupac Amaru compte à peu près 150 000 affiliés, et a essaimé dans tout le pays. Et notamment ici, à Resistencia. Et du coup, ce midi, les gens protestent contre les expulsions de logements et pour toucher la prime de Noël, à laquelle ils et elles ont droit, mais que l'administration locale refuse de leur verser. Et c'est comme ça que Resistencia, musée à ciel ouvert, en pointe sur la culture et l'art contemporain, méprise ses classes populaires.
Alors, pas besoin d'aller à Resistencia ni à Chihuahua. D'ailleurs, pour voir de l'art, nos artistes aussi ont du talent et on les a rencontrés pour vous. Allez, on s'écoute ça.
Parapapapapam.
Aujourd'hui, je reçois Jean-Benoît Christophe. Jean-Benoît Christophe, vous êtes chef d'orchestre.
Tout à fait.
Vous dirigez un ensemble de combien de musiciens ?
Un.
C'est somme toute assez épuré. Quel instrument ?
Une flûte à bec. C'est mon cousin qui en joue. Je lui dis où mettre les doigts sur les trous.
Car vous-même avez une formation de flûtiste, c'est ça ?
Ah non, non, on fait ça au hasard. Des fois, on met les doigts vers le haut et des fois vers le bas, ça dépend.
Ah, on est quand même assez loin de Bach.
Ah oui, oui, nous, on est en Gironde.
Enfin de la belle musique. Mais Josiane, encore une breaking news, on me fait signe. Une petite info en direct de Bruxelles.
Bonjour Madame Malrioui, vous êtes vacataire dans le lycée Galliani de Toulouse. Lycée, aujourd'hui, bien sûr, tout le monde a vu les informations, victime d'une violence inouïe, violence des élèves, avec, je cite, des filles qui sont obligées de raser les murs, des professeurs en crise d'angoisse et des scènes de violence avec des incendies presque tous les jours. Donc, vous qui avez vécu cette situation de très près et qui aujourd'hui est à Bruxelles, pouvez-vous nous expliquer l'ambiance que vous avez, enfin l'expérience que vous avez vécue et la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui à Bruxelles, capitale européenne?
Alors tout d'abord, merci de m'inviter sur ce plateau. Je vais peut-être pas refaire, parce que c'est source d'angoisse déjà de retranscrire ce même discours aux journalistes depuis des semaines maintenant. C'est-à-dire que quand je raconte cette angoisse, je suis à ce moment-là encore angoissée, donc je préfère juste dire que la cerise sur le gâteau, ou le gâteau sur la cerise, a été lorsque je suis sortie d'une salle des classes et que j'ai vu des élèves, filles, avec un rasoir, et qui donc rasaient les murs.
Oh mon Dieu!
Alors je me suis dit, c'est pas possible cette situation. Où va le monde si dans l'éducation nationale, on est obligé de raser des murs?
Tout à fait.
Déjà, j'ai du mal à me raser les jambes, mais obliger des élèves à raser les murs, je trouvais ça d'une violence extrême, donc j'ai choisi de me réfugier à Bruxelles et de demander l'asile politique.
Pendant ce temps-là, au nord-est de l'Argentine, un midi à Posadas, et ben ça donne l'occasion de voir les flics qui sont à chaque coin de rue essayer de se mettre dans les 10 petits centimètres d'ombre qui restent au pied des bâtiments. Et comme les rues sont toutes orthogonales et qu'il y a des flics à chaque coin de rue, autant dire que ça fait pas mal de flics partout dans la ville. Et puis il y a ceux qui sont postés devant les banques et les distributeurs de billets et même parfois des grandes enseignes qui se retrouvent à monter 2-3 marches pour essayer de choper quelques bribes de clim quand la porte automatique elle, s'ouvre. Enfin bon bref, on préfère qu'ils soient là à se cramer au soleil plutôt qu'à tirer des balles de caoutchouc sur les manifestants à Buenos Aires.
Parapapapapam. Aujourd'hui, c'est le flash météo de Brasero.
Demain, il fera 17 à Dijon, 18 à Toulouse et... Je crois qu'à un moment, il faut arrêter de se mentir et ôter les marques qui nous empêchent d'y voir clair. On s'accroche les premières années parce qu'on veut y croire. On se dit que cette fois, c'est la bonne. On mange des glaces, on échange des bracelets brésiliens, on court en t-shirt ou sur des pistes cyclables. Mais ensuite... Ensuite, tout pourrit, tout s'éteint, tout s'effondre comme une vieille merde, et tout suinte, la mort, dans un paysage dévasté par le...
Jean-Pierre, les cachets.
C'est malheureusement la fin de ce direct midi. Quelle émission incroyable, remplie de suspense, n'est-ce pas Marie-Pierre ?
Mais tout à fait Josiane, quelle émission incroyable. Mais malheureusement, comme vous venez de le dire, c'est la fin de l'émission du midi. Alors on va laisser s'installer notre équipe de nuit. Allez, à bientôt.
Bon déjeuner.
Brasero, l'émission contre l'émission.
Bonsoir, c'est Jean-Pierre Starbuck.
Bonsoir, c'est Gégé Bibi.
Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir JP.
Beau brushing Jean-Pierre.
Merci toi aussi.
Non Gégé, pardon. C'est le début de l'édition All Night Long News, Breaking News.
Toute la nuit.
Toute la nuit, tout à fait. Et on commence, on part en Uruguay je crois, en direct.
Tout à fait, Breaking News.
Hey, ça va ou quoi? Moi je suis à Montevideo, je reviens d'une manif de nuit, Alerta Feminista ça s'appelle, c'est contre les féminicides. Putain, c'était trop fort. C'était le soir, sur la 17 de Julio, c'est la rue principale du centre-ville. On était genre entre 200 et 300. Il y avait surtout des meufs, mais il y avait aussi quelques mecs. Le premier slogan a annoncé la couleur directe. Alerte, alerte les machistes, le féminisme avance en Amérique latine. Et tout le long comme ça, des petits chants avec des tambours. Et je te jure, des slogans plus classe les uns que les autres. Viens, écoute, joins-toi à la lutte. Et maintenant qu'on est toutes là, et maintenant qu'on nous voit bien, abat le patriarcat qui va tomber, et vive le féminisme qui va gagner. Devant, il y avait une banderole. Sur le côté, il y avait les meufs qui tenaient un ruban pour pas qu'on se disperse parce qu'il y avait que la moitié de la rue qui était coupée. Et quasi pas de flics. Ça, c'était hallucinant. Devant aussi, il y avait des meufs qui tenaient des pancartes avec le nom de chacune des femmes qui a été assassinée. Une copine de là où je squatte m'a expliqué un peu d'où viennent ces manifs à répétition et puis pas mal d'autres trucs.
C'est une alerte féministe, on appelle ça des alertes. Elles sont appelées par la coordination féministe de l'Uruguay qui réunit plusieurs collectifs féministes. Et pour l'instant, sa lutte principale, ça a été la question des féminicides. Sortir dans la rue à chaque fois qu'il y en a un, avec l'objectif de le rendre visible. Parce qu'il y a très peu de temps, on voyait ça comme des crimes passionnels, comme un truc qui se passait dans les cercles privés et qui n'avait rien à voir avec le pouvoir, avec les relations de pouvoir. Alors ça a été, et c'est encore une stratégie de visibilisation de la mort des femmes et de ce que ces morts impliquent au niveau politique. Et aussi, il y a un peu une démonstration du ras-le-bol et de la fatigue des femmes face à ce type de situation.
Et après, j'ai aussi discuté un peu sur place avec des meufs de l'organisation. C'est flippant ce qu'elles racontent.
La coordination, en fait, ça va faire 3 ans que face à chaque féminicide, on descend dans la rue pour rendre public la question des assassinats et de la violence patriarcale qui retombe sur le corps des femmes sous ses formes les plus brutales. Qui est le dernier pas de ce processus de violence, qui est l'assassinat sous toutes ses formes, en étant violé, démembré, poignardé, brûlé. Les formes les plus brutales et bestiales avec lesquelles on peut tuer un être humain. C'est comme ça qu'on nous assassine. Et avec cette dernière femme, on en est à 34 féminicides pour cette année 2017. C'est intéressant aussi d'observer que des 34 féminicides, la plus grande partie vient des conjoints ou ex-conjoints. Il y a un seul des cas où c'est un inconnu. Ça, c'est important de le visualiser aussi. En général, c'est toujours le conjoint ou l'ex-conjoint ou des membres de la famille quand c'est des questions de patrimoine.
Manifs en un an, ça c'est de la déter. Et comme ça, dans plein de pays d'Amérique latine, elles revendiquent toutes ni una menos, pas une femme de moins. Pas une de moins, pas une de plus, ce système est oppresseur et patriarcal.
Au milieu de la manif, les tambours se sont tus et on s'est tout allongé par terre. Et on est resté comme ça, de longues minutes en silence. Puis on est reparti en gueulant. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. On est les petites filles de toutes les sorcières qu'ils n'ont jamais pu brûler. Je te jure, j'ai eu la chair de poule presque tout le temps.
Moi, je crois que la grande réussite, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à se repenser elles-mêmes et se sentent concernées par le féminisme. Et ça, ça implique en soi une transformation de leurs espaces quotidiens, quels qu'ils soient. Par exemple, le 8 mars, il y a eu une grève et la centrale syndicale, qui est le PITCNT, a adhéré à la grève et a appelé tous les travailleurs et travailleuses à s'arrêter et à assister à la manifestation. Alors, je pense que cette visibilité qu'arrive à avoir les alertes, les 8 mars, les différentes dates, ça fait que ça prend aussi d'autres dimensions dans différentes sphères. Que ce soit dans le monde académique ou au niveau de l'État, ou que ce soit au niveau du quotidien des femmes qui sont là. Et je crois que c'est assez important. Par exemple, au niveau des lois, ils ont fait passer une loi sur le féminicide qui n'existait pas avant. Avant, on le considérait comme un crime passionnel. Et depuis peu, la semaine dernière, une loi a été votée, la loi intégrale de la violence de genre, qui caractérise différents types de violences antérieures au féminicide, comme la violence médiatique, la violence obstétrique, la violence patrimoniale, la violence au travail, toutes liées à des questions de genre, tu vois. Alors, tu vois, le pari, c'est pas tellement d'influencer les lois, mais il y a une résonance, un écho à tous les niveaux de la société qui vient de ces luttes du féminisme dans la rue.
Carmen Yamil Ritzel, de 42 años de Montevideo, asesinada por su ex cuñado, Luis Alejandro Villar, que la golpeó con una maceta en la cabeza. Manuela Stabile, de 21 años de Montevideo.
À la fin, on s'est toutes assises par terre, autour d'une corde qui faisait comme un cercle au sol, et deux filles ont commencé à lire le nom des 34 femmes, en précisant à chaque fois les conditions de leur mort et le nom du responsable.
Maria Florencia Torriani Molina, de 35 años de Montevideo, encontrada muerta, golpeada, apuñalada en la cara y la cabeza y a medio vestir. Melina Gordillo Jiménez, de 20 años.
À chaque nom, quelqu'un se levait et allait s'évanouir dans le cercle. Puis elles se sont relevées et là, grosse embrassade collective, toujours en criant et en gueulant. Entre-temps, elles avaient distribué le tract de l'appel à la manif et on l'a lu, tout ensemble. 300 voix à l'unisson. Encore une fois, la nouvelle déchirante. Encore une fois, le nœud dans le ventre, l'asphyxie dans la gorge, les larmes dans les yeux. Encore une fois, ils nous volent la vie. Encore une fois, une femme. Encore une fois, depuis la douleur et la rage, depuis la nécessité d'être ensemble, de serrer les poings, de construire de la confiance, d'être en alerte. Encore une fois, un féminicide, celui d'Araceli Umpierres, de 53 ans, assassiné à coups de couteau par son ex-conjoint. Encore une fois, en alerte, tout ensemble, en faisant meute, en faisant tempête. En alerte pour être là, pour prendre soin de celles qui tombent, pour embrasser celles qui n'y arrivent plus. En alerte pour savoir qu'ensemble nous sommes fortes. En alerte avant, avant le premier cri, la première intimidation, avant que le cercle de violence et de mort ne se ferme. En alerte parce que l'oppresseur vit parmi nous, avec nous, parce qu'il n'a qu'un seul lien, la domination, et sa réponse est toujours la violence. Et encore une fois, encore une fois, encore une fois, un mec tue. Le patriarcat montre ses dents, nous prend une des nôtres. Et nous, depuis cette douleur, nous crions que nous sommes en alerte. depuis cette douleur, nous sommes ici, encore une fois, et on y sera mille fois, jusqu'à ce que nous soyons libres. Pas une agression sans réponse, pas une morte de plus, pas une femme de moins, tout ensemble, toutes libres.
Ce soir, nous recevons Christian Vidal.
Bonsoir.
Ah oui, bonsoir. Christian, vous êtes le maire de la nuit de Toulouse.
Oui, je représente les gens qui vivent, dorment et travaillent la nuit.
Et pas les autres ?
Non.
Christian, en quoi consiste votre mandat ?
Je n'ai pas de légitimité institutionnelle, mais je dirais que je suis un partenaire qui peut faire des constats.
Ah, d'accord. Et en avez-vous ?
J'en ai.
Un exemple ?
Bien sûr. Prenez les soirées toulousaines. Elles sont dans un total laissé-aller. Bruit sonore du tomber de la nuit à l'aube et nuisance olfactive au matin sur le quotidien des habitants de la ville.
Ah, c'est très intéressant.
Nous avons également sorti un livre dont je suis très fier. La nuit, porte conseil, le livre blanc de la nuit.
Vous faites passer des messages.
Tout à fait. Tout à fait. Nous venons d'ailleurs de conclure un partenariat avec McDonald's qui affiche dès aujourd'hui nos messages de prévention.
Et comment avez-vous été élu ?
Tout naturellement, sur Facebook.
Il y a une vraie vie politique de la nuit à Toulouse.
Oui, oui, oui !
Merci beaucoup, c'était très passionnant. Merci pour cette interview. Merci.
Que du talent.
Encore mieux que de la boxe.
L'émission qui dépote.
Brasero.
C'est encore mieux que ne rien faire un lundi soir.
C'est encore mieux qu'un uppercut dans la gueule du MEDEF.
De 19h à 20h. Brasero.
Brasero.
Soir. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Starbuck.
Bonsoir, c'est Gégé Bubi.
Ouais, très belle cravate,
Merci, Gégé. Très belle coupe de cheveux.
Édition All Night Long News Breaking Extra More and More, ça continue toute la nuit ?
Toute la nuit. Et à présent, on part rejoindre Christiane Maria Carré pour un jour, un soir.
Ou peut-être une nuit.
Et voilà, c'est une surprise, c'est maintenant.
Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Toujours
toi, quand tu étais petite, c'était quoi tes soirées préférées?
Quand on crochetonnait. En fait, on déjeunait le soir. On prenait, c'était pain grillé et beurre. Confiture, parce que ma grand-mère faisait des confitures qu'elle nous donnait, enfin qu'elle donnait à mes parents. On était tous autour de la table. 6 enfants et 2 adultes. Et après, on allait au lit. Parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé.
C'est qui a inventé le mot?
Crochetonne, la sœur de mon père. Ça fait bizarre de parler. Jeannette. Elle a 92 ans aujourd'hui. Pour elle, c'était le déjeuner. Crochetonne, non. Moi, j'ai toujours entendu dire ça. Et chez nous aussi, on l'emploie. Et moi, je l'emploie avec mes petits-enfants aussi. Plutôt que de manger un truc qu'on n'aimait pas, qu'on était obligé de manger. Non, nous, on aimait ça. Surtout, il fallait surtout pas dire qu'on n'aimait pas quelque chose, sinon on était obligé de le manger en double, voire en triple. Après, je pense que financièrement, oui, ça faisait moins cher que de faire un repas. Bon, après, on faisait pas... C'était pas des grands repas qu'on faisait, c'était quelques repas familiaux.
Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
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 Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Eh, hey, Brasero, ça raconte quoi? Brasero.
Brasero.
Ça raconte quoi,
Brasero? Qu'est-ce que tu racontes?
Tu la racontes ou tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
C'est l'histoire de Mélusine et des sorcières au placard à balai.
Il vivait, dans un petit village, une jeune femme et sa grand-mère. Mélusine, c'est le nom de cette jeune femme, qui avait grandi dans cette campagne, planquée entre deux forêts, dans une petite maison en pierre. Sa grand-mère, qui l'avait recueillie à l'âge de 2 ans, était sa plus grande complice. Elle lui avait appris la plupart des choses qu'elle connaissait, et elle en connaissait des choses.
Elle savait reconnaître les plantes, et savait comment les utiliser, à quoi elles servaient. Elle pouvait se repérer dans tous les recoins de la forêt. La plupart de ses amis étaient des animaux. Elle adorait s'asseoir sur le gros rocher dans le jardin pour jouer de la guitare pendant des heures. Elle ne s'ennuyait jamais.
Un jour que Mélusine avait grandi, alors qu'elle était installée devant la cheminée pour faire du pain avec sa mère grand, cette dernière lui dit qu'elle avait quelque chose d'important à lui raconter. Sa grand-mère, en effet, se sentant affaiblie, se sentant proche de l'au-delà, décida qu'il était temps de lui raconter l'histoire de sa venue, l'histoire de sa mère.
Mélusine, il faut que je te raconte une histoire qui changera ta vie aussi profondément que tu as changé la mienne. Il fut une époque aujourd'hui oubliée où vivaient libres et autonomes les sorcières. Ta mère en faisait partie. À cette époque, toutes les sorcières sortaient la nuit dans la ville de Toulouse et dans d'autres villes encore. Grâce à leur pouvoir et à leurs connaissances ancestrales, elles étaient connues et sollicitées par toutes et tous ceux qui le désiraient. Elles faisaient des avortements, elles mettaient des enfants au monde, elles soignaient les gens, leur donnaient des conseils pour le présent et l'avenir. Elles étaient aussi réputées pour leurs incroyables fêtes qui duraient jusqu'au petit matin. Ces nuits-là, elles dansaient et chantaient lors de leurs rondes sans fin. Elles aimaient faire des potions, boire, faire la fête. Elles aimaient aussi quand elles ne festoyaient pas, déambuler dans les rues la nuit par 2 ou 3. Et les nuits au temps des sorcières, Mélusine, elles étaient paisibles. Leur présence y était rassurante et un seul de leurs regards dissuadait directement les malotrus qui s'apprêtaient à malotruire. Tout le monde les aimait, les sorcières. Enfin, presque tout le monde. Certains, quand même, ne les aimaient pas tant. Ils disaient que leur passage faisait frémir les murs, que quand elles étaient dehors, les étoiles brillaient trop fort, que leur rire était trop clair et que leur désinvolture était insupportable. Alors, ceux-là, qui n'aimaient pas tant les sorcières, commencèrent à se réunir dans un local près de François Verdier pour parler du bien-être et de la sécurité de tous. Leur discours commença à se répandre dans bien des espaces de la ville et partout, l'on commença à entendre de drôles de choses sur les sorcières.
Un enfant faisait une bêtise?
C'était la faute des sorcières.
Un homme ne signait pas un contrat juteux?
La faute des sorcières.
Une femme rentrait tard le soir et n'avait pas préparé le dîner?
Évidemment, la faute aux sorcières. Jusqu'au jour où une histoire fit déborder le vase de ceux-là qui n'aimaient pas tant les sorcières. Et ils se sont mis à geindre que c'en était trop, qu'on ne pouvait plus être à l'aise nulle part et qu'il fallait passer à l'action. C'est à cette époque-là que l'un d'eux, leur porte-parole, réussit à convaincre le maire de la ville de lui laisser gouverner les nuits. Il proposa une série de mesures visant à stimuler la consommation dans les restaurants et les bars, fit installer des lumières criardes et des caméras dans les rues. Mais surtout, il réussit à médiatiser cette histoire montée de toutes pièces.
Hier, une altercation a mal tourné entre une sorcière connue des services de police et deux jeunes hommes. Elle aurait utilisé ses pouvoirs pour s'amuser à leur faire du mal. Les deux victimes, grièvement blessées, sont encore à l'hôpital. Cette histoire a suscité l'empathie d'une centaine de célébrités qui signent aujourd'hui même une tribune de soutien aux victimes.
Cette médiatisation venait enfoncer le clou dans la banalisation du discours anti-sorcière. Et comme cela, journalistes et célébrités en poche, le maire de la nuit réussit à convaincre la plupart des Toulousains qu'ils n'étaient plus en sécurité nulle part. En tout cas, tant que les sorcières seraient libres la nuit et pourraient se servir de leur pouvoir comme bon leur semble. Alors quand il instaura le couvre-feu, les gens ne savaient plus quoi penser et se dire que c'était peut-être mieux, comme ça. À 22h, tout le monde devait dorénavant être au chaud, à la maison, devant un film ou au pire, un livre et au dodo. Pour les sorcières, pour qui 22h était à peine le début de la soirée, l'heure où elles choisissaient leur balai et leur chapeau du soir, ce fut une catastrophe. Plus de nuit, plus de vie de sorcières. Quelques-unes qui décidèrent de quitter la ville, mais en s'éloignant, commencèrent à perdre leurs habitudes et leurs pratiques de sorcières, et peu à peu leur pouvoir. Elles survécurent certes, mais durent renoncer à ce qui faisait d'elles ce qu'elles étaient. La plupart résistèrent. Elles avaient bien tenté à quelques reprises de sortir tout de même et avaient été violemment réprimées. Comme cette situation devenait insoutenable, elles restaient chez elles, assises, puis recroquevillées, à côté de leur balai, dans les placards à balai. C'est alors qu'elles s'endormirent pour une longue nuit. Aujourd'hui encore, elles dorment dans les placards, attendant que des jours meilleurs leur permettent de reprendre leur vie d'avant, attendant qu'un oiseau de bon augure leur donne le signal du réveil. C'est à cette époque, un jour que j'étais de passage à Toulouse et que tu avais à peine 2 ans, que ta mère, qui voyait bien ce qui se passait, qui somnolait toujours plus longtemps entre le balai et l'aspirateur et ne pouvait plus s'occuper de toi, qu'elle m'a demandé que je t'emmène avec moi dans notre petite maison de pierre, dans cette campagne, flanquée entre 2 forêts. Voilà, Médusine, tu sais tout.
Quelques jours après que sa grand-mère lui ait raconté cette histoire, Mélusine débarquait à la gare routière, à la recherche de l'histoire de sa mère. Elle n'était plus jamais revenue à Toulouse, ni dans aucune grande ville d'ailleurs, et elle était tout à la fois excitée et effrayée. Elle avait une seule indication que lui avait donnée sa mère grand.
« Sur la place du marché aux cochons, tu verras la dame aux chiens. Elle pourra sans doute t'aiguiller. »
Par le métro, Mélusine arriva facilement à Bonport et resta assise toute la journée sur la place. Se demandant si la dame arriverait, si elle la reconnaîtrait, si celle-ci pourrait vraiment l'aider, et surtout, si tout cela avait un sens. Allait-elle pouvoir retrouver la trace de sa mère? Allait-elle, pour cela, devoir ouvrir tous les placards à balai de tous les appartements et de toutes les maisons de la ville?
Elle vit les heures passer. Le soleil commençait à baisser. Entre chien et loup, elle entendit des chiens, justement, se mettre à aboyer. Et quelques minutes après, une vieille dame, qui marchait lentement et parlait à voix haute, vient s'asseoir au milieu de la place.
et tous les chiens du voisinage s'assirent autour d'elle et cessèrent d'aboyer. Voyant la scène, Mélusine s'emplit de bonheur. Aucun doute, c'était la femme qu'elle cherchait.
La dame, qui avait pour prénom Malika, lui raconta que tout le monde l'avait toujours crue folle, mais qu'on l'avait laissée traîner là, y compris aux heures les plus sombres du couvre-feu, car elle seule arrivait à calmer les chiens du quartier. Les chiens, ses complices, aboyaient tous les soirs jusqu'à ce qu'elle arrive et faisaient silence quand elle était là, si bien que personne n'osa jamais la déloger. Elle était donc la seule à pouvoir témoigner de l'époque des nuits interdites. Elle avait connu les réseaux de sorcières clandestines qui avaient tenté de résister, puis le vide, quand même les plus virulentes avaient été arrêtées ou avaient fini par s'assoupir, elles aussi, pour sauver leur vie. Elle lui raconta aussi comment, peu à peu, une autre sorte de nuit avait pris place. Après une dizaine d'années, les gens avaient commencé timidement à sortir, jusqu'à 22h10, puis 22h20, puis 22h30, comme reprenant une liberté. Mais une liberté si contenue et bien rangée qu'on les laissa faire.
Sans sorcière, le maire et ses complices n'avaient plus de raison de maintenir le couvre-feu. Les soirées redevinrent légales. Elles se passaient dans les restaurants, les boîtes de nuit, les centres de jeux vidéo, les taxis. Il fallait avoir de l'argent pour sortir, alors de toute façon, une grande partie de la population restait chez elle.
Malika et Mélusine passèrent la nuit ensemble à parler sur la place. Et au petit matin, alors que s'installaient les étals du marché aux cochons, elle lui dit
« Mélusine, je t'ai dit tout ce que je savais. Et maintenant, si c'est ta mère que tu cherches, va voir Bachir, c'est lui qui pourra t'aiguiller. »
Mélusine, fatiguée mais heureuse d'avoir une piste pour continuer ses recherches, prit le métro jusqu'à Ampalo. Une fois arrivée, elle entra dans une boulangerie pour demander où vivait Bachir, et on lui indiqua l'allée 6B d'un immeuble où elle sonna le cœur battant.
Bachir, bien sûr, l'accueillit avec beaucoup de plaisir. Il lui raconta mille choses. Et surtout, il lui parla de ses deux petits poissons magiques, car c'est à ces deux animaux vertébrés aquatiques à branchies que la mère de Mélusine avait confié la direction de sa maison. Après l'approbation de Mélusine, Bachir partit dans une pièce au fond du couloir et revint avec un bocal plein d'eau, dans lequel nageaient deux petits poissons, l'un rouge et l'autre tacheté de noir. Je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais ça se voyait qu'ils étaient magiques. Mélusine regarda Bachir et lui dit
« Maintenant, parle-leur !»«
Ah non, ils ne comprennent pas le français. Il faut un interprète, mais ne t'en fais pas, j'en ai une !»
Petite souris, petite amie, viens par ici. Parle à mes petits poissons et tu auras du saucisson. »
À peine eut-il fini de chanter, qu'une adorable petite souris se glissa entre les pieds de Mélusine, remontant par sa jambe jusqu'à la table et posa son petit derrière à côté du bocal et poussa trois petits cris comme ceci. Bachir traduit.
Elle est prête, raconte-lui ton histoire et ce que tu veux savoir.
Mélusine se pencha vers la souris et lui raconta tout. La forêt, sa grand-mère, les sorcières, le maire de la nuit, les placards à balais, la recherche de sa mère. Après l'avoir écouté en silence, la souris se retourna vers les poissons et leur dit, dans leur langue, ce que venait de raconter Mélusine. Et cela pendant 10 minutes. Après l'avoir écouté en silence, les poissons se regardèrent, se parlèrent à la branchie, puis remontèrent à la surface de l'eau et ouvrirent plusieurs fois la bouche, s'adressèrent à la souris avec des petits bruits à peine perceptibles. Et comme ça, pendant quelques instants. Après cela, la souris se tourna vers Bachir et à son tour lui raconta. Puis à son tour, Mélusine se tourna vers Bachir et lui demanda.
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Elle parle d'une maison au milieu d'un terrain vague. Tu la reconnaîtras car à minuit, la lune rebondit sur un des carreaux. Si la maison accepte ta présence, une biche sera là et d'un coup de pied t'ouvrira. Pour trouver la localisation de ce terrain vague, tu auras une charade. Mon premier est celui qui attrape le loup. Mon deuxième est l'inventrice de la procréation miraculeusement assistée. Mon troisième est une épice et le tout est le nom de la rue où se trouve la maison de ta mère.
Mélusine remercia Bachir. Bachir donna une pincée de daphni au poisson et une rondelle de saucisson à la souris et sur ce, ils se séparèrent.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Mélusine va-t-elle réussir à retrouver la trace de sa mère ? Les sorcières vont-elles sortir de leur placard à balai ? Ou l'effroyable maire de la nuit va-t-il réussir à triompher ? À bientôt !
Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
Brasero.
Raconte.
Raconte.
Brasero raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero ?
Et Brasero, c'est fini pour ce midi et pour ce soir. Au revoir Josiane.
Au revoir Marie-Pierre, c'était un plaisir, une super émission.
Merci Josiane, Marie-Pierre. Merci à l'équipe de nuit.
Merci au sketch de Fab Caro, c'était vraiment très sympa et très marrant.
J'ai une petite dédicace à faire. Merci à Manu, Léo, Maria, Féfé, Nora, Will et Antinapi.
Merci à Juju et Blandine et leurs amis dont on ne connaît pas le prénom. C'était très sympa. Merci l'Argentine.
Merci la nuit.
Merci Montevideo.
Merci le midi.
Merci Féminisme.
Merci Brasero.
Merci Brasero.
Voilà, Brasero, le midi, l'après-midi ou le soir, c'est toujours une tuerie.
Brasero. Moi aussi.